Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Isadora. Elle et sa sœur Marisa sont célèbres sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, pour avoir lancé une box de snacks sains. Voilà maintenant un an qu'elles ont mis fin à ce projet qui ne correspondait plus à leurs valeurs et qu'elles se sont lancées dans l'aventure Intention. Intention, c'est une plateforme qui permet à chaque membre de retrouver son équilibre alimentaire. La plateforme se veut bienveillante et inspirante. Dans cet épisode, Isadora nous plonge dans son quotidien de maman et entrepreneuse. Elle revient sur son parcours, de ses études à la création de Snackies, puis d'Intention. Elle nous explique comment sa mère leur a transmis les valeurs d'une alimentation saine et simple. Nous explorons également le lien qui existe entre alimentation et écologie, sans que celui-ci ne soit forcément conscientisé ou même identifié. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isadora.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu?
Bah ça va super. J'avoue que je suis un petit peu impressionnée d'être ici. C'est pas, tu sais, moi quand on me dit podcast consacré à l'environnement, je me dis oh mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans.
Eh bien justement, on va en parler parce que Basilic c'est l'environnement et les initiatives positives et ton parcours s'inscrit complètement là-dedans. C'est pour ça que j'avais très envie de te recevoir au micro. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter s'il te plaît?
Alors oui, alors moi je m'appelle Isadora, je vais avoir 33 ans dans quelques jours. Je vis à la campagne à côté d'Angers. Je suis entrepreneur, ça fait 5 ans maintenant. J'avais créé une boîte que pas mal de gens connaissaient qui s'appelle Snackies, enfin, qui s'appelait du coup Snackies, où je commercialisais des box de snacks sains, donc des petites gourmandises qu'on recevait dans sa boîte aux lettres tous les mois, qu'on a arrêté avec ma sœur jumelle qui s'appelle Marisa, là pendant la 2020, en mars 2020, on a arrêté cette entreprise pour lancer une nouvelle entreprise plutôt digitale où on a lancé une plateforme du coup digitale sur pour accompagner en fait nos membres à manger plus sainement et on s'est associé du coup avec notre sœur qui est elle diététicienne nutritionniste. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. En même temps, on est sur YouTube. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Isadora et Marisa. En même temps, on a un podcast aussi qui s'appelle Intention. Et on a aussi des comptes Instagram, chacune de notre côté. Donc, niveau professionnel, on fait beaucoup de choses, en fait.
Oui, vous êtes très active et ce, depuis, depuis longtemps. Oui. Avant qu'on rentre dans le détail, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités qui est de savoir leur premier geste écolo ou en tout cas celui dont ils se souviennent. Est-ce que toi, tu te souviens de ce premier geste écolo?
Mon premier geste écolo, je pense que mon premier geste écolo est finalement inconscient parce que c'est le geste de ma famille, dû à mon éducation. Parce que nous, nos parents, nous ont, notre mère, c'est notre mère qui tenait les rênes de la cuisine chez nous et nous a toujours fait à manger fait maison. On n'a jamais vraiment acheté d'industriel chez nous. C'est pas quelque chose qui. Moi, j'étais jalouse de mes copines qui arrivaient au lycée avec, par exemple, des Kinder Bueno, des trucs comme ça. Nous, ça n'existait pas chez nous. Ça, c'était vraiment un choix de la part de notre mère de nous faire manger maison en majorité. Elle faisait, par exemple, le pain. On faisait le pain maison. Elle faisait les pâtes à tarte maison. Elle faisait les vinoiseries. Elle les faisait maison. En fait, on a toujours été. Dans ce monde-là de manger de saison, maison. Et aussi, je dirais que le geste écolo le plus lointain qui me revient, c'est de boire l'eau du robinet. On n'a jamais vraiment acheté d'eau en bouteille, nous. Et même, on a vécu en Afrique pendant 6 ans, ça choquait toujours tout le monde, mais nous, on buvait l'eau aussi du robinet quand on habitait en Afrique. Donc quand on arrivait en Afrique, bah pas le choix, le temps que on s'habitue aussi quand on parce qu'on a changé de pays assez régulièrement. Du coup, les premières semaines, les premiers mois, on devait boire l'eau en bouteille. J'ai toujours détesté ça. Je trouve que ça avait toujours un goût bizarre de plastique. Enfin, j'ai toujours dit ça moi, toujours. Du coup, c'était quelque chose qu'on n'achetait pas parce que très vite, nous on disait en tant qu'enfant, on disait à notre mère qu'on préférait l'eau du robinet. Et du coup, on a grandi avec l'eau du robinet, même en Afrique, ouais. Même en Afrique. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est ces deux gestes-là, le fait maison et ne pas consommer d'eau de bouteilles en plastique. C'est des choses qu'on n'a jamais vraiment fait chez nous.
Et qui sont des gestes que tu adoptes toujours aujourd'hui.
Toujours. J'ai jamais changé ça.
Et justement, l'alimentation, c'est vraiment un des piliers de ta vie et de ton activité professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce que est née d'abord l'idée de créer Snackies ? Alors brièvement, parce que j'indiquerai dans la barre de description les différents podcasts où vous en avez parlé et je n'ai pas du tout envie de me replonger dans tout ça parce que vous l'avez déjà très très bien détaillé au micro de Siam de Génération XX. Mais voilà, comment est-ce que l'alimentation t'a suivi et t'a guidé vers cette voie professionnelle ?
L'alimentation, c'est vraiment une histoire pour moi de famille et j'ai même de mère en fille. Toutes les trois, on est trois filles et on a un frère, mais toutes les trois, on a cette passion pour l'alimentation sans savoir qu'on en ferait notre métier. Parce qu'aucune de nous trois, à la base, n'avait choisi, par exemple, des études concernant l'alimentation. Pas du tout, du tout. Mais ça a toujours fait partie de notre vie. Notre mère nous a toujours très bien fait à manger, a toujours fait maison. On l'a toujours vue en cuisine. Toujours, et pourtant, on pourrait dire parce qu'elle était à la maison, mère au foyer, mais non, elle travaillait aussi à côté. En plus, elle était très active, notre mère aussi. Elle avait le travail avec mon père, qui lui est expert comptable, donc elle travaillait avec lui dans son entreprise. Elle était membre de je ne sais combien d'associations, dont par exemple le Secours catholique, où elle a été très active pendant de nombreuses années. Donc on la voyait finalement quelque part peu, notamment le soir, puisqu'elle faisait beaucoup d'associatifs. Mais elle a toujours fait maison, toujours. Donc je dirais que mon parcours date de l'enfance, la toute petite enfance. Après, on a voyagé dans plusieurs pays, on a vécu dans différents pays. Ou franchement, pour moi, quand on va dans un pays, l'alimentation, c'est limite la base. C'est la culture, découvrir la culture gastronomique. On nous a toujours habitués à ça aussi quand on partait en vacances. Découvrir de nouveaux plats, etc. etc. Et en fait, tout a un petit peu merdé, si je puis me permettre, quand on a quitté la maison. Que ce soit Marisa ou moi, donc ma sœur et moi, c'est vrai que tout a été un peu chamboulé quand on a quitté la maison. Parce que justement, quand on a quitté le domicile familial, on aurait pu nous aussi faire à manger, faire maison, etc. Mais on avait ce côté aussi de se dire, bah, nous, on n'a pas connu, par exemple, le Kinder Bueno, on n'a pas connu les trucs hyper surtransformés, hyper industriels, parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Donc, quand on est parti de la maison, bah, nous, on s'est dit, c'est à nous d'être maintenant maître de notre cuisine. Et on a un peu dévié, quoi. On est un peu allé manger pas les meilleures choses qui existent sur la planète. Ma mère a toujours bien fait à manger, mais nous, on faisait à manger aussi beaucoup, mais en trop grosse quantité. Du coup, on mangeait beaucoup. À côté de ça, on était toutes les deux sorties d'études et ces études-là nous a pas permis de déboucher sur un emploi. Donc, on est resté au chômage pendant pas mal de temps. Et du coup, quand on reste à la maison et qu'on n'a pas d'emploi et qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait ? Plein de gens font plein de choses différentes. Et nous, on a mangé. Donc, on a beaucoup mangé, jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'on avait pris beaucoup de poids. Et l'une et l'autre, parce que nous, on n'est pas jumelles pour rien, on est des jumelles miroirs. Et nous, on fait tout ensemble. Hein, on fait tout en même temps, on fait tout ensemble, c'est génial. Donc, on a pris du poids et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à un rééquilibrage alimentaire, etc., etc. Et j'ai vu aux États-Unis le concept de la box de snack sain qui n'existait pas du tout en France, que je trouvais ça mais vraiment tellement chouette que voilà, j'ai décidé de créer cette entreprise-là. Et finalement, ça a fait boule de neige parce que j'ai créé cette entreprise-là. J'ai demandé à Marisa de me rejoindre dans mon aventure quasiment un an après en tant que salariée. Elle m'a dit, viens, on crée une chaîne YouTube parce que vendre des snacks, c'est sympa, mais on ne peut pas se cantonner qu'au goûter. Ce serait chouette de les accompagner aussi quelque part dans une alimentation saine, mais du matin au soir. Donc, viens, on crée une chaîne YouTube pour parler d'alimentation saine. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu notre métier, mais surtout notre passion, quoi.
Et donc, ton autre sœur, dont tu parlais au début de l'épisode, oui. est, elle, diététicienne. Donc, elle aussi s'est dirigée vers l'alimentation.
Mais tardivement, parce que ma grande sœur, elle s'appelle Karine. Elle est plus âgée que nous, donc elle a 46 ans. Et elle a fait plein de jobs. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, à commencer dans des jobs. Elle était acheteuse, elle, pour des entreprises en plus d'aéronautique. Donc, rien à voir. Elle a fait ça pendant de très nombreuses années. Et puis, je pense que quand elle avait, il me semble, 35 ans, il me semble, donc ça remonte à quand même il y a 10 ans pour elle, qu'elle a voulu changer et qu'elle s'est dit, j'ai envie de faire de l'alimentation, c'est vraiment une passion, parce qu'encore une fois, on a grandi comme ça, c'est vraiment une passion, j'aimerais faire un BTS diététique, ce qu'elle a fait, non sans souffrir, parce que c'est un BTS qui est très très difficile, qu'on sous-estime, mais il est vraiment très compliqué. Et faire ça à 35 ans, quand tu as une vie de famille, que y a la vie, quoi, c'était assez compliqué pour elle, mais elle l'a obtenu. Et tout de suite, elle a travaillé en tant que diététicienne nutritionniste, et ça fait maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans, je crois, maintenant. Donc oui, quelque part, on s'est toutes retrouvées, finalement, dans ce secteur de l'alimentation saine.
Et justement, j'allais y venir. Comment est-ce que tu définirais, toi, cette notion d'alimentation saine ? Parce que c'est vrai que c'est une notion qui a quand même émergé, notamment grâce aux réseaux sociaux, je pense. Mais voilà, qu'on a beaucoup vu, on en a beaucoup parlé, mais finalement, on la définit assez rarement.
Bah, en fait, pour nous, en tout cas pour nous trois, l'alimentation saine, c'est pas vraiment ce qu'on voit sur les réseaux, c'est-à-dire vraiment ce côté... Bah, nous aussi, on a utilisé le mot « healthy », etc. En même temps, c'est des mots qui existent, qui sont là et qui permettent aussi un référencement.
Bien
sûr. Nous, on les a utilisés aussi. Mais pour nous, alimentation saine, c'est en fait l'alimentation, quelque part, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. C'est l'alimentation du fait maison. On fait autant que possible des repas maison. On utilise des produits bruts le plus possible. On évite les aliments transformés, voire même ultra transformés. Pour moi, c'est ça l'alimentation saine. Il n'y a pas une question ni de calories, ni de c'est gras, c'est pas gras, c'est ci ou ça. Moi, j'estime qu'on mange sainement quand on a utilisé des aliments le plus brut possible, qu'on a plutôt bien géré la composition de notre assiette et qu'on mange avec plaisir. On réfléchit trop à son alimentation, de plus en plus. Et c'est ça le problème, et ça c'est vraiment le problème que notre sœur met toujours en avant, c'est que les réseaux sociaux, c'est super, ça donne des informations géniales, mais ça donne aussi beaucoup de culpabilité. Et c'est pas le but. Le but, l'alimentation, c'est de nous nourrir, qu'on reste debout, qu'on puisse... dormir, vivre, respirer et qu'on puisse faire les activités qu'on doit faire, travailler, faire du sport, s'occuper de nos enfants, des loisirs, des choses comme ça. C'est ça le but de l'alimentation. C'est pas de tout le temps réfléchir tout le temps à ce qu'on va manger. Oui, mais pourquoi je mange comme ci ? Mais pourquoi je mange ça ? Donc en fait, c'est nous, notre but en tout cas, c'est de remettre l'alimentation à sa place, c'est-à-dire que ça, c'est censé être notre moteur, notre essence, mais sans en faire une espèce de cogitation toutes les 5 secondes et revenir en fait à des bases comme nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui faisaient à manger sainement parce que finalement ils mangeaient les choses les plus brutes qui existent.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez observé que les consommateurs et les consommatrices ont perdu un peu cette notion de produit de base, de produit brut ? Est-ce que toi, parfois, quand tu montes certains légumes ou même certains ingrédients, tu as des questions soit de ta communauté, soit de vos abonnés qui te disent « Mais attends, Isadora ou bien à ta sœur Marisa, comment est-ce que tu fais pour cuisiner ça ?» Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a quand même perdu cette appétence pour la cuisine, pour le fait maison ?
Bah, bien sûr, bien sûr. Et je le comprends aussi quelque part parce que quand on va faire ses courses, je veux dire, on fait ses courses dans un hypermarché, dans un supermarché rempli de produits. Et les produits bruts, ce n'est pas ceux qui sont mis en avant. C'est quand même les produits ultra transformés. Quand on n'a pas eu une éducation alimentaire aussi, parce que quoi qu'il arrive, c'est l'héritage, la transmission qui permet aussi à nous, adultes, de faire les meilleurs choix. Et fut un temps, bah, nos mères, quelque part, ont bénéficié de cette ouverture des supermarchés, des magasins. Elles ont commencé aussi à beaucoup travailler et donc à utiliser des aides au quotidien. Et les industriels, ils en ont profité. Les femmes sont moins à la maison, travaille plus, cuisine moins, et ben attendez, on va leur donner tout ce qu'il faut pour qu'elles cuisinent le moins possible, et ben on va leur donner des produits transformés. Et après, c'est ces mères-là qui doivent, enfin ces parents en tout cas, qui doivent transmettre à leurs enfants. Donc c'est compliqué de transmettre quelque chose quand on utilise déjà au quotidien des produits soi-même transformés. Du coup, on grandit avec, sur la table, moi je vois la différence avec mon conjoint par exemple. Moi j'ai grandi avec sur la table une carafe d'eau. Voilà, il y avait que ça sur la table quand on mangeait le soir, le midi. Il y avait une carafe d'eau, chacun nos assiettes, toujours composées de légumes, toujours avec les féculents, enfin toujours comme ça, fait maison. Alors que, à contrario, mon conjoint, lui, on en rigole très souvent, lui, il a 42 ans et lui, il a grandi avec sur la table il y avait toujours sur la table de la mayonnaise, du coca, du Nutella. Il a grandi comme ça. Donc moi, quand il m'a rencontrée, ça lui a fait bizarre de savoir que moi, je ne mangeais pas tous ces produits. Par exemple, les danettes, lui, il a grandi avec la danette, pas moi. Moi, je n'ai pas mangé ça quand j'étais jeune. Je n'ai jamais eu de yaourt comme ça. Nous, ma mère, elle achetait des yaourts, mais des yaourts nature. On n'a jamais eu de yaourt spécialement avec des goûts, des choses comme ça. Elle préférait qu'on mette de la confiture qu'elle faisait maison dans notre yaourt, par exemple. Donc, c'est ça. On voit la différence de deux éducations différentes. Donc, lui, à 42 ans, il en est encore à là. Même si moi, mon métier, c'est quelque part de parler d'alimentation saine, il l'entend, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, il entend tout ça, mais il a déjà fait des étapes, hein, mais il a toujours quand même besoin de son Nutella à la maison, il a toujours besoin de sa mayonnaise à la maison, c'est comme ça, il a grandi comme ça. Donc je trouve que c'est normal qu'on ne sache plus, puisque les industriels, moi je trouve que c'est vraiment le rôle dans ce cas-là des industriels qui nous ont mis tellement de choses à disposition que maintenant, où est-ce qu'on va chercher du produit brut ? C'est hyper compliqué dans un rayon de trouver du produit brut, c'est hyper compliqué, on ne met pas en avant non plus spécialement les marchés, les fruits et légumes. Moi je me souviens, j'avais un ex, on en parlait avec ma mère il y a quelques jours, un ex qui avait donc mon âge. Un jour j'étais allée au supermarché, parce qu'à l'époque j'achetais mes légumes au supermarché, j'avais acheté des aubergines et des courgettes, et il était choqué parce qu'il ne savait pas du tout que ça ressemblait à ça. Il n'avait jamais vu de sa vie d'aubergines et de courgettes, puisque sa mère achetait toujours les aubergines et les courgettes déjà tout prêt en fait, dans des conserves, mais déjà tout préparé. Donc lui, il connaissait les pâtes avec la conserve d'aubergine, il n'avait jamais vu à quoi ça ressemblait. Et moi, en tant que jeune fille, parce que j'avais 25 ans à l'époque, ça m'avait limite choquée. J'étais choquée de savoir qu'on pouvait ne pas savoir à quoi ressemblait un légume aussi simple qu'une aubergine. Donc, tu vois, c'est des petits exemples pour montrer que ça, c'est des exemples.
Oui, et qu'il y a un vrai travail de déconstruction qui peut ou qui doit avoir lieu chez certaines personnes quand elles ont envie de se remettre à une alimentation plus saine, de consommer des produits bruts. Ça peut aussi demander de déconstruire tout ce qu'on nous a appris plus jeune.
C'est difficile parce que déjà, il faut se renseigner, il faut prendre du temps pour le faire, il faut avoir la volonté de le faire et il faut savoir par où commencer. Et je trouve ça très compliqué et parfois même culpabilisant, en effet, ce truc de l'alimentation saine, c'est super chouette. Et c'est tant mieux d'ailleurs qu'on en parle. Mais à côté de ça, par où je commence ? Par quoi je commence ? Parce que moi, je ne sais même pas. Par exemple, moi, je vois la meilleure amie de ma sœur, de Marisa, avant qu'on parle vraiment, nous, sur les réseaux sociaux d'alimentation saine, elle nous disait qu'elle ne savait même pas faire cuire un œuf au plat. Pour elle, c'est quelque chose d'impossible. Elle mange toute l'année, son repas du soir quasiment tous les jours, c'est tomate mozzarella, toute l'année. Voilà, c'est son repas préféré, ou sinon elle a mangé tous les midis au restaurant. Parce qu'elle ne sait pas quoi faire à manger, elle ne sait pas comment faire à manger, elle n'y connaît rien. Et l'autre fois, c'était une victoire parce qu'elle avait appelé pour dire que ça remonte, parce que maintenant, elle a acheté nos e-books, etc. Donc, elle est à fond. Mais une fois, elle nous avait appelé pour dire « Waouh, j'ai cuit une omelette, quoi. » Elle était trop fière d'elle. Et parce que voilà, elle n'a pas été élevée non plus dans cette transmission de manger avec les produits bruts, aller sur le marché. Nous, quand on était petits, on allait sur les marchés, on faisait des cueillettes, c'était l'activité du dimanche. On allait avec notre petite pelle, on allait faire des cueillettes. C'était vraiment l'activité pédagogique de mes parents le dimanche, par exemple.
C'est intéressant ce que tu dis sur certains consommateurs ou certaines consommatrices qui ne savent pas par où commencer quand on parle d'alimentation saine. Et en fait, on peut faire le parallèle avec l'écologie. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que peu importe le domaine, quand on est débutant, on a toujours cette peur de mal faire, cette peur d'être jugé, cette peur de culpabiliser. Et c'est dommage, en fait.
Et moi, l'écologie, je ressens ça aussi. C'est vrai que, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est top parce qu'on découvre plein de choses. Comme là, tu vois, moi, j'avais découvert ton podcast. Mais tu as aussi ce côté culpabilisant de te dire, t'en fais jamais assez. Niveau écologie, t'as raison de ne pas en faire assez. Toi, tu estimes que tu fais un petit peu, on va dire, ta part. Donc moi, c'est ma part. Je dirais que c'est plutôt la partie alimentation. Mais après, on va te dire, oui, mais par exemple, j'ai vu que tu avais acheté le truc en sachet, tes produits surgelés, ils sont dans un sachet. Ah, j'ai vu traîner du sopalin derrière toi, dans ton arrière-plan. Et du coup, tu as l'impression de jamais en faire assez, même si tu ne sais pas parfois vers où aller, où commencer, par quoi, qu'est-ce que je fais. Oui, c'est vrai que l'écologie, c'est tout un sujet. Et l'écologie, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire beaucoup de choses, tellement de choses.
Exactement. Et je pense qu'en 2021, plus que jamais, là, après la crise qu'on vient de traverser, il est temps de mettre un frein à tout ça et de mettre un frein à la culpabilité qui peut exister, que ce soit sur l'alimentation ou sur l'écologie. Et vraiment juste essayer de s'entraider, parce qu'on a besoin d'être tous ensemble là-dedans et chacun à notre rythme. Et je trouve que ce soit toi ou que ce soit Marisa, vous arrivez à transmettre ça sans culpabilité. Comment est-ce que vous arrivez à maintenir ce cap positif? Comment est-ce que ça se retranscrit également avec votre programme Intention? Voilà, est-ce que c'est vraiment votre ligne directrice?
Alors ça, c'est notre ligne directrice à toutes les trois. Parce que nous, on a ce côté très bienveillant et surtout, on a ce côté où on se dit, le principal, c'est d'avoir envie de commencer. Tu peux dire, j'ai envie de commencer là, maintenant, je me sens prête, mais finalement, commencer réellement que dans 6 mois. Mais le pas, c'est de s'être dit un jour... je ne peux pas continuer comme ça à manger par exemple que de l'ultra transformé parce que c'est une réalité. Il faut savoir que l'ultra transformé aussi, parfois c'est ce qui coûte pas très cher en magasin par exemple, les trucs un peu tout faits de marque très bas de gamme on va dire. Et quelque part, une personne qui a peu de moyens ira plus facilement là, à tort, en pensant que c'est ce qui coûte probablement le moins cher pour lui. Donc nous, on n'est pas là pour juger. Chacun fait aussi en fonction de ses moyens, de ses facilités, de ses connaissances, de ses croyances. Donc nous, on dit, même sur notre compte, enfin sur notre plateforme Intention, nous, on parle toujours de l'alimentation de la vraie vie. Donc, on ne va pas trouver des recettes qui sont parfois hyper instagrammables, limite, il faut aller à Bali pour manger telle ou telle assiette. Nous, on leur permet de manger sainement avec l'alimentation du quotidien, avec les placards du quotidien, sans avoir à courir 15 millions de magasins pour trouver et la farine de Camut et le truc des noms imprononçables. Nous, notre sœur, elle a travaillé diététicienne nutritionniste, mais le plus gros de sa carrière pendant 10 ans, c'était de travailler pour les personnes précaires. Donc, elle faisait des ateliers cuisine pour la banque alimentaire. Donc, son travail, c'était de faire des ateliers cuisine, de cuisine saine, à des personnes très précaires, donc qui ne pouvaient utiliser que 10 euros par semaine d'alimentation. Donc là, on est vraiment sur du très précaire. Il fallait qu'elle leur permette de faire des recettes saines avec ça. C'est compliqué parce que là, on ne peut pas leur dire d'avoir de la farine de Camut. On ne peut pas leur dire d'avoir des graines de chia. Là, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, une boîte de thon, avec le truc de surimi qui en date en DLC courte, par exemple, dans le supermarché. Et avec ça, le but, c'est de leur proposer des recettes faciles, saines et accessibles. Et du coup, Karine a toujours été comme ça. Et elle nous a toujours transmis ça depuis 10 ans. C'est vrai qu'on a toujours entendu notre sœur dire on peut manger sainement avec un petit budget. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous être à 10 euros par semaine, bien évidemment. Mais ça veut dire que si ces personnes-là à 10 euros par semaine le peuvent, alors certes, ce n'est pas avec les produits les plus oufs de la planète, ça c'est sûr et certain, mais on peut. Donc du coup, nous, on s'est toujours mis comme ligne de conduite de se dire que ce sera l'alimentation saine, oui, mais de la vraie vie. Pas de la personne qui vit au fin fond de Los Angeles, qui vit à Bali, c'est chouette, tant mieux pour ces personnes-là, mais c'est pas vraiment le quotidien, on va dire, des personnes qu'on cible, c'est-à-dire les Français, quoi.
Et votre programme Intention, en quoi est-ce que cela consiste ?
Alors nous, ce n'est pas vraiment un programme. Nous, c'est vraiment une sorte d'accompagnement où en fait, tous les mois, nos membres ont accès à des cycles, parce que nous, on appelle ça des cycles. Donc, par exemple, ça va être là, on a fait le cycle, par exemple, le petit déjeuner, où notre sœur va leur permettre de comprendre qu'est-ce qu'un petit déjeuner idéal ? C'est quoi une composition idéale ? Pourquoi c'est important de prendre un petit déjeuner, par exemple ? Qu'est-ce que ça implique sur le corps ? Parce que nous, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de parler de poids, de perte de poids spécialement, ou nous, on veut parler de santé. La santé, c'est, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, selon l'OMS, c'est être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie. C'est ça les trois, normalement, piliers de la santé. Et de nos jours, la santé, c'est avoir un body goal, avoir un super corps, montrer sur Instagram qu'on a un ventre plat. Pour nous, ce n'est pas ça la santé. La santé, c'est connaître son alimentation, connaître comment notre corps fonctionne pour pouvoir lui apporter l'essence nécessaire, donc l'alimentation nécessaire, pour justement être bien dans son corps. Donc, c'est-à-dire pas uniquement juste se trouver belle, c'est chouette, mais pas uniquement, mais par exemple, ne pas se sentir toujours ballonnée. Ne pas manquer de sommeil et avoir un sommeil tellement réparateur que le lendemain matin, quand on se réveille, on est en pleine forme. Ça veut dire être bien dans sa tête, donc ne pas peut-être toujours être en stress, apprendre à gérer ses angoisses et être bien dans sa vie. C'est-à-dire que quand on a une bonne alimentation, qu'on se sent bien dans sa tête, bien dans son corps, automatiquement, on se sentira mieux dans sa vie, on pourra se dire qu'on est prêt à développer des projets, à être heureux. Voilà, nous, c'est ça notre but. C'est le seul et l'unique, d'ailleurs. Et ce n'est pas de dire que demain, grâce à nous, vous allez perdre 10 kilos. Donc oui, bien sûr que ça va jouer. Hein, dans tous les cas, à partir du moment où on mange sainement, quelque part, on va perdre du poids. Donc ça, c'est, on va dire... ça va arriver, mais nous, ce n'est pas un but en soi. Nous, le but en soi, c'est que chacun puisse se dire « je me sens bien dans ma vie, bien dans mon corps et bien dans ma tête ».
C'est un bel objectif. Ça fait à peu près un an que vous avez créé Intention, c'est ça ?
C'était en septembre 2020, donc ça fait, je sais même pas 6 mois.
Oh, même pas 6 mois ?
Ça fait 5 mois.
Qu'est-ce que tu peux retirer déjà de cette expérience en ces quelques mois ?
Et ce que je retire déjà, c'est que moi, j'ai énormément appris, alors que ça fait 4 ans, 5 ans que je parle d'alimentation sur les réseaux, et j'ai tellement appris déjà, moi, personnellement, des choses que j'ai mises en place direct, et sachant que moi, en plus, j'ai une petite fille à qui a eu beaucoup de mal à dormir, donc on sort tout juste la tête de l'eau alors qu'elle va avoir 18 mois. Du coup, tous les conseils que Karine donnait, ça aurait pu être pour perdre du poids, parce que moi j'ai toujours mon poids de grossesse, mon poids de grossesse, faut pas déconner, j'ai encore quelques kilos de grossesse qui me restent, mais je me sentais tellement fatiguée que j'étais pas prête à réfléchir à perdre du poids, par exemple, c'est pas du tout ma priorité. Du coup, j'ai mis en place ce que Karine nous a enseigné quelque part, ou en tout cas nous a partagé sur la plateforme, et ça a changé, moi, ma vie ces 5 derniers mois, grâce au fait que grâce à la façon dont elle nous dit de composer son petit déjeuner, j'avais beaucoup moins de fringales et donc beaucoup moins d'attirance pour le sucre. Alors que quand tu manques de sommeil, clairement, tu es attiré uniquement par le sucre. Et ça peut être tout, ça peut être des pâtes, mais ça peut être aussi bouffer du Nutella, ça peut être aussi bouffer, je sais pas moi, plein de trucs qui sortent. Ouais, t'as un attrait pour le sucre qui est juste intense. Et grâce à l'intention, moi, ça a permis, en tout cas pour moi, de me sentir beaucoup plus énergique. Chose qui me manquait depuis ces 18 derniers mois. Et pour notre communauté, donc pour les membres, ça a permis aussi de remettre un petit peu l'alimentation à sa place. On sait maintenant comment on compose un petit déjeuner idéal, on le sait. On ne va pas y réfléchir maintenant pendant 10 ans, parce que maintenant, tout le monde va savoir intuitivement « Ah, il me faut tel nutriment, telle chose », mais de façon simple. Elle va pas nous faire un cours de diététique. Hein. C'est vraiment avec des mots, encore une fois, de la vraie vie, des mots qui font sens pour tout le monde. Et nous, en 5 mois, on se rend compte que, en fait, les gens sont plus perdus que ce qu'on pensait. Et que des questions qui, pour moi, sont limite classiques, nous, on se dirait, on va pas en parler parce que tout le monde sait ça. Et quand on voit sur notre plateforme, la différence avec YouTube, par exemple, où on est, c'est que tout le monde nous regarde, mais il y a pas, on peut nous laisser un commentaire, on va y répondre, mais ça va pas plus loin. Alors qu'avec notre plateforme, bah, on a un groupe Facebook privé, on est comme une petite famille, et quand quelqu'un a un doute, ne sait pas quelque chose, bah, nous on est là pour, et Karine aussi, pour y répondre le plus rapidement possible. Et parfois on se dit, ah oui, elles nous disent merci pour des trucs qui pour nous, on pensait même pas que ça pourrait les aider, tu vois. Donc en fait, il faut toujours, et ça c'est le rôle de Karine, de toujours nous dire, les filles, vous pour vous, vous le savez, mais sachez que tout le monde ne sait pas ce que vous, vous savez. Et même moi, j'en ai appris plein, alors que pourtant, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube et je parle d'alimentation saine. Et j'ai appris des choses que je savais même pas que ça existait.
Ah, donc, incroyable. Ouais,
pour nous, c'est un super bilan, en tout cas en 5 mois là.
Surtout que vous vous êtes lancé après avoir quand même créé une entreprise à succès qui était Snackies, après avoir décidé de la clôturer. J'imagine que c'était pas une décision facile à prendre, d'autant plus en période de Covid où on a quand même une certaine instabilité et une crise, une ambiance de crise un peu qui règne comme ça. Et vous avez quand même réussi à mener ce projet avec brio.
Alors oui, c'est vrai que Snackies, dans tous les cas, on sentait une limite, parce que Snackies, on était devenus que des filles qui parlent de goûter. Alors que nous, on prenait tellement de plaisir à parler d'alimentation en règle générale, et pas uniquement le goûter. Donc déjà, ça nous posait question, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, vers la fin, on parlait beaucoup plus d'événements personnels, bizarrement, au travers de nos box, que de nos snacks. C'est ça qui était drôle. On faisait des lives énormément plutôt tournés sur le développement personnel plutôt que parler de nos propres snacks. Et la deuxième chose, c'est le fait que bah, quand tu vends plus de 2000 box par mois de snacks individuels emballés, bah, quand tu fais... tu sais qu'il y a 10 snacks dans chaque box, que tu en vends 2000 par mois sans compter la boutique en ligne qui, elle, marche tous les jours, on s'est dit, franchement, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, et on a pris conscience à ce moment-là que niveau écologique, on faisait partie en fait de ces personnes qui alors on ne s'est pas culpabilisé hein, pour le coup, nous on ne s'est pas culpabilisé, on s'est juste dit maintenant qu'on a des enfants, est-ce que c'est pas à nous aussi de leur laisser une planète propre, et en vendant autant de snacks individuels sur emballés, ça nous plaisait pas, ça nous plaisait plus en tout cas. Alors que pourtant, ouais. Tu vois, on n'avait vraiment jamais pensé à l'écologie, si par période, mais sans que ce soit quelque chose qui règne dans notre vie, en tout cas.
Mais justement, j'allais y venir, mais parfois l'alimentation peut être aussi la porte d'entrée vers une transition écologique plus globale. C'était ce que disait notamment Victoria de Mango and Salt au micro de Basilic il y a quelques semaines. Et pour vous, peut-être que la parentalité, la maternité et cette transition avec l'alimentation pourraient entraîner à une transition écologique plus globale aussi.
Complètement. Et ça, c'est tout à fait vrai, parce que nous, l'alimentation, on a fait notre équipage alimentaire il y a un peu plus de 7 ans maintenant, et ça a été boule de neige. Mais nous, ça a été par rapport au sain et au naturel. Donc, on a commencé par l'alimentation saine. Ensuite, ça a été arrêter d'utiliser des produits qui ne sont pas naturels sur nos cheveux. Ensuite, ça a été dans le ménage, éviter d'acheter maintenant de la Javel, tu vois, des choses comme ça que je n'ai plus du tout chez moi. Donc quelque part, le naturel, l'écologique, ça se rejoignait quelque part sans que nous on mette jamais le mot écologique dedans. Nous on disait toujours, bah nous on a une routine capillaire naturelle. On disait pas une routine capillaire écologique. On a une routine de ménage par exemple naturelle. Donc nous c'est plus ça qu'on mettait en avant plus que le côté écologique. Alors que par exemple, bah oui, faire mon ménage au vinaigre blanc, c'est aussi écologique.
Bah bien sûr.
Mais on ne parlait pas de ça à l'époque, nous. On parlait beaucoup plus. D'ailleurs, c'est un thème que j'emploie très peu, le mot écologique, sur les réseaux sociaux en général, parce que je trouve que du moment où tu dis le mot écolo, tout de suite, tu vas devoir garder cette étiquette jusqu'à la fin de tes temps sur les réseaux sociaux. Et on ne te laissera pas passer la moindre petite faille, le moindre petit morceau de sopalin qui passerait en caméra. Donc, ce n'est pas des étiquettes que nous, on aime avoir sur nos comptes, en tout cas.
Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Et c'est c'est ce que je disais au début, mais c'est vraiment dommage parce que l'écologie, c'est bien plus large que ça et on devrait arrêter de stigmatiser. Finalement, ça dessert la cause plus qu'autre chose quand on stigmatise les personnes qui essayent de bien faire et de rejoindre le mouvement.
On a toujours l'impression qu'on n'en fait jamais assez, en fait. C'est ça le problème. C'est que, tu vois, l'autre fois, c'est de tout bête, mais l'autre fois, je dis que je fais une confiture de fraises en plein hiver. Bah, j'ai reçu tout de suite des messages, des confitures de fraises en plein hiver. Non, mais oui, parce que moi, pour moi, ça me paraissait logique que tout le monde comprenne que je les avais achetées surgelées. Mais c'est pour te dire que, tu vois, imagine que j'avais acheté des fraises en hiver. Imagine.
Oui, bien sûr.
Bon. Ça, est-ce que ça remet en cause tout ce que je dis, tout mon discours? Non, c'est juste que oui, bon, ça peut. Pourquoi pas? Bon, ça m'arrive pas. C'est rare. Ça n'a pas dû m'arriver depuis des années d'acheter hors saison. Mais même si ça m'arrivait, est-ce que pour le coup, je dois tout de suite être à fuir? Que je trouve que c'est dommage de stigmatiser comme ça. Sachant qu'en plus, nous, on est des vitrines, on nous voit. Mais les personnes qui me jugent, bah moi, je ne sais pas quel est le contenu de leur frigo et de leur placard.
Bien sûr. C'est tout le problème de ce que j'appelle la police des écolos.
Exactement.
Mais c'est vraiment ça. Et puis, c'est dommage parce qu'en fait, cette police qui déjà probablement n'est pas parfaite, hein, chez elle, personne n'est parfait. Cette police, en fait, vient aussi limiter l'ampleur du mouvement et de la transition de certains. Donc, c'est vraiment dommage. Mais bon, on peut pas changer le monde. Donc, on fait ce qu'on peut. Quels sont vos projets avec Marisa, avec Karine, avec Intention ou peut-être même d'autres projets pour 2021?
Alors nous, enfin, des projets, on en aurait 15 millions. Il faut savoir se ralentir un petit peu. Alors nous, notre projet, on ne sait pas trop encore comment on va le mettre en place. Mais bon, après, il y a le contexte du Covid. Donc bon, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer encore. Mais nous, il nous manque le contact avec les autres. Nous, on aimerait faire des ateliers cuisine, mais en présentiel. Parce que le digital, c'est super le digital. Franchement, heureusement qu'il y avait le digital en 2020 d'ailleurs, pour grand nombre d'entre nous. Parce que ça nous a permis quand même de continuer nos activités assez facilement et surtout de rester connectés avec les autres. Sans être vraiment seul chez soi, Internet a vraiment été super pour en 2020. Mais quelque part, nous, parler d'alimentation saine, surtout Karine qui, elle, comme je te disais, a travaillé pendant des années auprès de gens, au contact de gens, bah, toutes les semaines, hein, pour faire des ateliers cuisine en milieu précaire, ça lui manque énormément. Pour elle, c'est limite ce qu'elle regrette le plus dans son travail, c'est le contact avec les autres. Donc nous, ce qu'on aimerait en 2021, peut-être 2022 uniquement, on ne sait pas comment ça va se passer encore cette année, ce serait de créer des ateliers cuisine, des conférences, des retraites, mais en petit groupe. On ne voudrait pas plein de personnes, mais en petit groupe, genre on se voit 3 jours, 4 jours, et on apprend tous ensemble à sentir mieux, quoi, le bien-être, mais intégral, c'est-à-dire manger sainement avec Karine, parler peut-être, je ne sais pas moi, des huiles essentielles avec notre naturopathe qui travaille avec nous. On a besoin, je pense, de reprendre contact avec l'autre, que rester toujours derrière son écran, en fait. On a vraiment cette envie-là de casser l'écran. Donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment beaucoup avec mes sœurs.
C'est vrai que ça fait envie et on en rêve en ce moment.
Ah mais complètement. Franchement, le jour où on peut enfin prévoir des choses comme ça, ce sera une de nos premières intentions, ce sera de faire ça, oui. D'aller à la rencontre de nos membres. Et ça n'a rien à voir quand on fait les choses sur Internet, c'est super. Mais tu vois, l'autre fois, on a vu deux de nos membres. Il y a une relation privilégiée dans le sens où on peut aller plus en profondeur, on peut répondre plus facilement aux questions très personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui nous permettrait de nous rapprocher de nos membres. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Donc, on va le matérialiser. Quand? On ne sait pas, mais c'est sûr que ça arrive.
Et justement, pour toutes celles et ceux qui aimeraient rejoindre cette communauté, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut rejoindre à tout moment la communauté Intention? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, que ce soit clair pour les auditrices et les auditeurs?
Alors oui, bien sûr. Donc en fait, c'est une plateforme sous format abonnement. Donc tous les mois, enfin, il y a un abonnement mensuel. Par contre, en effet, il n'y a pas d'ouverture tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas ouvert tout le temps. Ça, on ne voulait pas parce que quand il y a des personnes qui arrivent sur notre plateforme, on veut se consacrer à ces personnes-là. Et avoir des personnes qui arrivent tout le temps, ça ne permettrait pas de créer ce lien qu'on a créé après sur le groupe Facebook. Donc nous, il y a 4 ouvertures par an. Il y a une ouverture en janvier, il y aura une ouverture en avril et ainsi de suite. Donc nous, il y a une ouverture 4 fois par an, ce qui nous permet d'être en petit comité. Tout est relatif parce que on a un peu plus de 1000 membres quand même, mais le but n'était pas de se trouver à 15 000 non plus. Donc on ouvre, entre-temps il y en a qui partent parce qu'ils ont fini leur parcours, ils ont compris que où est-ce que ça n'allait pas chez eux, enfin chez eux, je parle de chez eux dans leur cuisine, on va dire, où est-ce que ça n'allait pas, parce que quelque part, beaucoup de personnes ne pensent pas que l'alimentation peut être, entre guillemets, le problème de départ. Par exemple, quelqu'un qui va venir nous voir en disant « Moi, je ne dors pas la nuit, toute la nuit, je me réveille plusieurs fois par nuit, etc. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai un bébé ou c'est normal parce que au travail, ça ne va pas, des choses comme ça. » Alors que parfois, ça peut être juste parce que, par exemple, le soir, tu as mangé peut-être un peu trop lourd, tu as mangé peut-être un petit peu trop de protéines animales, des petites choses comme ça qui sont toutes bêtes, mais qui changent complètement, par exemple, son sommeil. C'est tout bête. Et il y en a beaucoup qui viennent nous dire « À la base, moi, j'étais venue, pour une problématique de poids, mais j'ai découvert en fait que maintenant, je dors super bien, je n'ai plus de coups de barre à 10 heures comme j'en avais avant, je travaille super bien, je suis beaucoup plus productive. » Et pour moi, ça, c'est j'ai tout gagné. Parce qu'on est parti d'une problématique qui était de poids à maintenant, je me sens mieux dans ma vie. Donc, c'est ça qui est pour nous important. Nous, ça se passe comme ça, 4 ouvertures par an. La prochaine ouverture, là, elle sera le 1er avril. C'est une ouverture qui doit durer à peu près 4 jours. Après, on ferme les portes pendant plusieurs mois et on se consacre, du coup, à nos membres qui sont avec nous. Et tous les mois, il y a un nouveau cycle. Donc là, on a fait, en septembre, c'était la répartition alimentaire. Donc, comment on répartit son alimentation sur la journée. Le petit déjeuner, il y a eu les légumes d'automne, il y a eu la détox, entre guillemets, parce que c'est un terme que Karine déteste. Donc voilà, la détox, entre guillemets, remettre un petit peu à sa place que c'est la détox en janvier. Là, on a fait sur le plaisir, par exemple, comment apprendre à s'écouter, la pleine conscience. Et il y a plein de choses comme ça, les courses, par exemple, parce que c'est un truc qui nous tient à cœur aussi, parler un peu de comment... faire les bons choix, parce que c'est des choix compliqués. C'est facile de dire, oui, il faut acheter des produits bruts. Oui, mais c'est quoi les produits bruts? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'un produit brut? Comment on lit une étiquette? C'est des choses qui arrivent très prochainement aussi. En fait, tous les mois, il y a un cycle. Et puis, il y a des lives, il y a des vidéos, il y a des podcasts. Il y a des intervenants extérieurs aussi. On travaille avec une naturopathe géniale, une sophrologue, une prof de yoga. Donc voilà, il y a un peu de tout ça, parce que le but, c'est vraiment de montrer le bien-être global et pas uniquement on va manger des graines de chia.
Là aussi, il y a des préjugés à déconstruire.
Exactement. Parce que c'est vrai que le sain, enfin, là d'ailleurs, on va beaucoup en parler bientôt aussi, mais le sain, c'est vegan, c'est bio, c'est sans gluten. Et en fait, les gens, il y a tellement de nouvelles façons de parler d'alimentation. Le cétogène, le sans gluten, le FODMAP, le vegan, le végétalien, le végétarien. Les gens, quand ils arrivent sur notre plateforme, ils sont complètement perdus. Est-ce que je suis censée manger sans gluten? Je sais pas, t'as la maladie cœliaque? Non? Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on m'a dit que. Parce que sur les réseaux sociaux, on dit que. Parce que c'est inflammatoire. Oui, mais est-ce que ton intestin est inflammé? Voilà, c'est... beaucoup de choses en fait à revoir. Est-ce que parce que je mange végan, mais moi je mange sain parce que je suis végane. Oui, mais t'as mangé quoi ce midi? J'ai mangé l'escalope panée 100% végane. Oui, mais t'as vu la composition? Non, mais c'est végane. Oui, mais ça veut pas dire que c'est sain. C'est du ultra transformé, par exemple. Moi, je vois beaucoup de véganes qui mangent ultra transformé. Donc c'est bien, tu manges végane, mais quelque part tu pourrais manger végane aussi sans manger de l'ultra transformé au quotidien. Donc, et je comprends que les gens soient perdus.
Ce serait meilleur pour la planète aussi.
Exactement. Et c'est ça le problème. C'est que tu vas suivre une chaîne végane, mais elle va te montrer que du produit transformé. Donc tu te dis, puis des produits qui ne sont pas de saison non plus, très souvent. Moi, je le vois très souvent aussi. Donc c'est hyper compliqué, je trouve, de passer d'une chaîne à une autre, par exemple sur YouTube ou sur Instagram, où une fois on te dit, oui, mais c'est mieux de manger de saison. Mais de l'autre côté, la végétalienne, elle te dit qu'elle mange des tomates en plein hiver. Et du coup, il faut imaginer que le spectateur qui n'est pas spécialement informé, bah, il va de là à là à là et il est complètement perdu. Et nous, on les récupère un petit peu sur la plateforme pour remettre un petit peu les bases. En fait, un peu comme aurait dû faire, mais alors vraiment sans culpabilisation, hein, nos parents, en fait, nous remettre un petit peu dans le... Dans une transmission du bon sens. C'est ce que nous, on appelle le bon sens. Peut-être éviter de trop réfléchir et de reprendre une alimentation pleine de bon sens. On va sur le marché, on prend ses fruits et légumes, on les cuisine. Et je veux dire, manger des pâtes à la sauce tomate, c'est très sain. Mais on va peut-être te dire que bah non, c'est pas sain de manger des pâtes et de la sauce tomate. Mais si, il n'y a pas plus sain, on va dire, que manger des pâtes et de la sauce tomate avec un petit peu de gruyère dessus, par exemple. Et nous, on a cette ambition, en tout cas. On verra si, à terme, on a des super bons retours. Mais on a cette ambition de remettre un petit peu les choses à sa place. Bah, c'est quoi le sans gluten ? On va vous expliquer aussi ce que c'est.
Puis vous savez, vous entourez aussi de professionnels, notamment votre sœur Karine, mais aussi des naturopathes, tu le disais. Et c'est important aussi de créer cet écosystème bienveillant et compétent pour rassurer les consommateurs et les consommatrices.
Ah mais complètement, de toute façon, Marisa et moi, on avait toujours eu l'envie de faire ce type de plateforme, mais on ne l'aurait jamais fait toute seule. On n'est pas experte. Il y a des choses qu'on sait parce que bah, notre mère nous a beaucoup transmis. Ma grande sœur est diététicienne depuis 10 ans, donc je peux te dire qu'en 10 ans, j'en ai appris des choses à table pendant les repas. Elle nous observe aussi, enfin, je veux dire, elle me fait pas des cours toutes 5 secondes, mais par exemple, j'étais fatiguée dernièrement, enfin là, avant les fêtes, j'étais crevée toute la journée, et puis elle me voyait aller dans la cuisine manger, hop, tiens, il y avait un chocobon qui traînait parce que Mathieu avait acheté des bonbons, truc que moi je mange jamais, ça traîne, tiens, j'en prends un autre, et puis d'un coup elle me regarde, et puis elle va me dire, t'es crevée toi. Ah, bah tu vois, direct elle m'a dit ça, bah direct je me suis dit, ah oui, en fait, ce geste anodin pour moi là, est un geste qui est anodin pour plein de gens, mais qui veut dire beaucoup, en fait, sur ce qu'on est là actuellement. Donc oui, je suis fatiguée. Bah, après, elle me dit, bah, assis-toi. Oui, bah, en fait, tu m'as pleuré. Tu dis que t'es fatiguée parce que ton bébé dort pas, parce que t'en peux plus, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a la vie. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je mange des bonbons. Bah non, en fait, du coup, elle va pas me dire, bah non, il se dort à n'importe quoi. Elle va juste me dire, bah tu sais, tu pourrais en manger peut-être qu'un seul, ou plutôt, bah tu vois, si t'as vraiment cette envie de sucre comme ça, pourquoi tu te ferais pas une belle plâtrée de pâtes avec juste du beurre et tu manges que ça? Tu vois, c'est une diététicienne qui me dit ça. Elle va pas me dire, oui, mais tu sais, il faudrait que tu pèses le nombre. Ça, on parle jamais de ça. On n'a jamais parlé de calories, on ne pèse rien. Si ton corps a besoin de sucre, bah elle me dit, fais-toi une plâtrée de pâtes avec un peu de beurre, un peu de gruyère, et ça te fera déjà plus de bien que de manger un bonbon. Et on verra ensuite, quand tu te sentiras moins fatigué, comment on pourrait améliorer la composition de ton assiette. Et c'est ça qu'en fait, ce que notre sœur veut transmettre, c'est un petit peu le bon sens de se dire, t'es fatigué là maintenant, tu as le droit de manger des pâtes. C'est pas complètement aberrant de manger des féculents le soir. Voilà, c'est des choses que voilà, on veut remettre les petites choses à sa place, et on n'aurait jamais fait ça sans expert. Si notre sœur nous avait dit non, par exemple, on aurait peut-être essayé de trouver un expert, mais qui soit dans la même lignée que nous, c'est-à-dire on pèse pas, on parle pas de calories, on parle pas de régime. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas entendre chez nous. Et finalement, elle a dit oui tout de suite, donc c'était très pratique. Et ma voisine, la naturopathe, c'est ma voisine, on a les mêmes valeurs de vie. Donc, c'est très simple pour moi de lui dire est-ce que ça te dit d'embarquer dans l'aventure ? Et quand elle a dit oui, j'ai dit super. Et comme ça, on est une bonne petite équipe qui avons les mêmes valeurs. Alors, ça, c'est pas à tout le monde. Hein. Nous, il y a des gens qui sont désabonnés en disant bah, moi, je pensais que vous alliez nous parler de calories. Déjà, c'est mal nous connaître, parce que si on nous connaît un peu, on sait qu'on ne parlera jamais de ça. Mais des personnes qui sont tombées comme ça sur nous et qui se sont dit, bah, elles pensaient aussi avoir un plan, un planning de repas. Le matin, vous mangerez ça, etc. Mais ça, c'est des choses qui n'arrivent pas chez nous.
Il faut trouver aussi ce qui nous correspond.
Exactement, c'est important.
En tant qu'individu. Et il faut savoir s'écouter et se sentir écouté, peu importe le support qu'on choisit et l'aide qu'on demande, en fait.
Exactement. C'est tout à fait ça. Il faut choisir les personnes qui... Mais comme pour tout, hein, quand tu irais voir un psy, c'est pareil. Hein, ça se trouve, tu changerais 3 fois de psy parce que le feeling ne s'est pas passé. Donc, nous, les personnes qui sont avec nous, en tout cas, nos membres, sont généralement des personnes qui nous suivent depuis quand même très longtemps. C'est rare, les personnes qui arrivent comme ça d'elles-mêmes. Et donc, elles connaissent notre philosophie. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles viennent, parce qu'elles savent qu'on ne va pas les culpabiliser avec des pèses personnes, des calories, et on est plus à se dire écoutez-vous et mangez ce qui vous semble juste. On est juste là pour ajuster, justement. juste.
que de justesse.
Exactement.
Et puis pour toutes celles et ceux qui ont envie de tester un petit peu vos recettes, il est aussi possible de télécharger vos e-books sur votre site. Et puis, bien évidemment, les comptes Instagram et votre chaîne YouTube. J'indiquerai tous les liens de toute façon dans la barre de description. Merci beaucoup Isadora, c'était très très intéressant. C'était la première fois que je consacrais un épisode entier à l'alimentation saine et c'était vraiment passionnant. Et puis j'aime bien ce parallélisme entre alimentation et écologie et comment ça permet aussi d'ouvrir des portes et d'ouvrir sa réflexion. Donc merci beaucoup.
Mais merci à toi. C'est super chouette parce que moi qui fais souvent des podcasts, etc., c'est vrai que c'est des thèmes là comme ça qu'on aborde peu en général. Donc c'était super chouette d'être l'invité de ton épisode aujourd'hui.
À très bientôt.
À très bientôt. Ciao, ciao.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir Basilic en partageant cet épisode avec vos proches ou en laissant des étoiles, 5 si possible, et un avis sur votre application de podcast favorite. Vous pouvez également retrouver Basilic sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.